Les podcasts du Collège de France, Histoire.
Dans ses discours du mois de janvier, Nasser a appelé à l'unité de la résistance palestinienne. Il a à l'esprit la prochaine tenue au Caire du 5e Congrès national palestinien, qui doit régler définitivement la question du contrôle de l'OLP. Nasser a fait le choix stratégique de soutenir le Fatah comme force dominante et l'encourage à prendre le contrôle définitif de l'OLP. La popularité de la résistance dans l'opinion publique arabe en a fait un enjeu essentiel sur la scène politique arabe, et le président de la RAU a tout à craindre des activités bassistes dans ce domaine. Nasser aurait pu soutenir le FPLP, issu du mouvement des nationalistes arabes, considéré traditionnellement comme étant d'obédience nassérienne. Mais l'adoption par ce mouvement d'un discours de plus en plus gauchiste et marxiste-léniniste ne lui paraît pas adapté aux circonstances de l'heure. De toute façon, le Fatah est la force la plus importante et sa relative plasticité idéologique correspond le mieux aux nouvelles exigences de la politique de la République arabe unie. Sur le plan militaire, Nasser ne se fait pas d'illusions sur les capacités de la résistance. Elle peut être un facteur de fixation d'un certain nombre d'unités militaires israéliennes sur le front oriental, mais pas plus. Si l'option militaire il y a, elle sera le fait d'armées régulières arabes actuellement en voie de réorganisation. En revanche, il ne sera pas possible d'arriver à un règlement politique sans y intégrer une dimension palestinienne. Soutenir le Fatah, c'est aller dans le sens des options définies lors du premier sommet arabe de janvier 1964, c'est-à-dire la reconnaissance des identités régionales arabes et l'abandon de la perspective de création d'un grand ensemble unitaire. La libération de la Palestine signifiera alors la création d'un État palestinien spécifique et non son intégration dans un grand ensemble arabe. Un tel programme est inacceptable aussi bien pour les FPLP que pour les bassistes. Nasser est conscient du dommage causé par les déclarations inconsidérées de la propagande, des propagandes arabes et palestiniennes avant la guerre de juin 67, résumée par l'expression « jeter les juifs à la mer ». Il va mettre tout son poids politique pour soutenir le programme énoncé, semble-t-il, pour la première fois par Abu Iyad, Salah Khalaf, au nom du Fatah en octobre 1968. Dans ce texte, Abu Iyad dit que la révolution palestinienne rejette toute une idée de fanatisme, de sectarisme, c'est-à-dire de confessionnalisme, et de racisme qui sont les fondements du mouvement sioniste. Elle ne combat pas les juifs en tant que membres d'une religion, mais le sionisme, qui est un mouvement impérialiste, expression du néonazisme, qui cherche à occuper toujours plus de territoires arabes et à en chasser la population. L'entité sioniste doit être éradiquée pour que la paix et la sécurité puissent être établies dans la région arabe. Le combat palestinien a pour but de libérer les juifs de l'emprise du terrorisme intellectuel et de l'orientation raciste que représente le sionisme. Les juifs pourront vivre de façon digne dans un État et dans une société arabe. Si l'État est arabe, il n'est pas leur dit qu'il est palestinien. Le texte d'Abu Iyad d'octobre 68 est un texte intermédiaire, puisqu'on ne parle pas d'État palestinien, mais seulement d'État arabe, sans spécifier lequel. Cette prise de position pourrait être contraire à la charte adoptée l'année précédente par l'OLP, la seconde charte. Si la question du sort des Juifs après la libération de la Palestine reste virtuelle, puisque c'est un but reconnu comme long à atteindre, L'orientation prise par le Fatah de devenir un acteur politique reconnu sur la scène internationale, au moins dans un premier temps dans l'audience des forces progressistes mondiales, implique d'avoir une réponse à ce genre d'interrogation. On affirme donc à de nombreuses reprises que l'on combat le sionisme, mais non les juifs, à qui l'on ne reconnaît pas la qualité de juif. Alors sur cette photo, non datée malheureusement, on a les premiers entretiens entre Arafat, Abu Yad, vous avez Farouk Kademi, avec Nasser. Alors il y a une controverse chronologique pour savoir quand a lieu cet entretien. Certaines sources disent fin 1967, d'autres disent fin 1968. Je suis plutôt partisan de la seconde datation, mais il faut faire des recherches encore plus précises pour déterminer exactement, parce qu'un an de distance, c'est quand même beaucoup pour cet entretien capital entre Nasser et Arafat. Soutenu par Nasser et Laura Faisal, la direction du Fatah est maintenant en position de force pour négocier avec la direction intérimaire de l'OLP. Un accord est trouvé. Le Fatah, tout en conservant son existence distincte, prendra la direction de l'OLP et en deviendra la « colonne vertébrale », entre guillemets. On distribuera les sièges du Congrès national en fonction de cette orientation. La dualité Fatah-OLP permet de maintenir en place les institutions et les cadres de l'OLP, organisation toujours considérée comme émanant de la Ligue des États arabes, tout en conservant l'indépendance politique du Fatah et la liberté de décision en dehors de la Ligue arabe. Ce choix permet de rejeter ce qu'on a appelé l'option algérienne d'un front de libération nationale prêt à liquider par la force tout compétiteur. Bien, le dualisme Fatah-OLP permet de maintenir le pluralisme des mouvements palestiniens, contrairement à ce qui s'est passé dans la guerre d'Algérie. L'hégémonie du Fatah donc permet le maintien du pluralisme, d'autant plus que les organisations concurrentes ont toutes des protecteurs puissants sur la scène arabe. C'est une garantie contre le risque de guerre civile. Et faisons un rappel, ce sera toujours la ligne fondamentale de Yasser Arafat jusqu'à la fin de sa vie. Éviter autant que possible toute guerre civile inter-palestinienne, à l'époque entre le Fatah et ses compétiteurs de gauche, ultérieurement entre le Fatah et les mouvements islamistes. Ça a vraiment été une des lignes directrices de la pensée politique d'Arafat. Et a posteriori, on peut penser qu'il n'a pas eu nécessairement totalement tort sur ce sujet. Mais le FPLP et les pro-syriens décident de boycotter le prochain congrès. Le programme officiel du Fatah est rendu public le 20 janvier 1969, assurant la présence de toutes les forces palestiniennes à l'intérieur de l'OLP, maintenant le discours de la recours exclusif à la lutte armée et le rejet de toutes les tentatives de liquidation de la cause palestinienne s'appuyant sur la résolution 242, comme le projet soviétique et autres, qui veulent, dit-il, établir un pseudo-État palestinien. Dans ce manifeste du Fatah, on revendique la totalité de la Palestine, mais le mot « État palestinien » n'est pas énoncé. Alors, je sais que certaines sources occidentales donnent un texte du 1er janvier 1969 du Fatah dans lequel « État démocratique » apparaît, mais je ne l'ai pas retrouvé dans les sources arabes jusqu'ici. Peut-être qu'il faut chercher plus. Le 25 janvier, Nasser reprend la parole à l'occasion du second congrès international de soutien des peuples arabes à la cause de la Palestine, dans lequel la France est représentée par M. Ternoir, ancien ministre du général de Gaulle, et par le professeur Jacques Berck du Collège de France, au passage. Ça, c'est un clin d'œil pour l'institution. Le second congrès international, et Nasser salue la cause palestinienne devant l'opinion publique mondiale. Donc, discours habituel. Est-il raisonnable de se fonder sur des histoires datant de plusieurs milliers d'années pour chasser un peuple de sa terre et menacer du même sort tous les Arabes entre le Nil et l'Euphrate? En réalité, le sionisme est un projet de l'impérialisme pour imposer sa base, Al-Qaïda, la base, dans cette région du monde. Est-ce aux Arabes de payer les conséquences de la persécution des Juifs par les nazis? Est-il normal que le racisme sionisme suive la voie du racisme nazi? Les victimes doivent-elles devenir pires que les bourreaux? La rhétorique nassérienne, même très radicale dans ce discours, ne doit pas dissimuler que Nasser s'en tient toujours à la résolution 242, même si les Palestiniens le rejettent. À l'instar de Nasser, la représentation du Fatah utilise un discours qui marie antifascisme et antinazisme et rejette projet américain ou soviétique de règlement politique. Ça, c'est différent de la position de Nasser, évidemment. Et d'ailleurs, les soviétiques seront extrêmement vexés par les rejets de leurs propositions par les Palestiniens. Nous verrons ça tout à l'heure. Mais pour la première fois, le Fatah utilise en public l'expression « État démocratique ». Le but de la révolution populaire palestinienne est, je cite, « la liquidation de l'entité sioniste et l'établissement d'un État palestinien démocratique dans lequel vivront des Palestiniens de toute confession, musulmans, chrétiens et juifs, dans une société démocratique progressiste ». Donc c'est là, semble-t-il, à ce moment-là, qu'apparaît pour la première fois le mot « État palestinien démocratique » de façon officielle. L'un des buts de la révolution, on reprend les arguments d'Abou Iyad précédent, un des buts de la révolution palestinienne est de libérer les juifs du sionisme. Et donc les résolutions du Congrès sont moins ambitieuses puisqu'il faut à la fois marier les positions égyptiennes qui acceptent la 242 et les positions palestiniennes qui rejettent. Donc on fait un texte mi-chemin entre les deux positions. Le 29 janvier, devant le congrès des syndicats arabes, Nasser poursuit son argumentation en comparant le sionisme au racisme dont l'Europe a souffert et au colonialisme qui a déraciné les peuples de l'Afrique. Et le 1er février, Nasser inaugure le 5e congrès national palestinien, martelant que le sionisme n'est pas l'ennemi des seuls Palestiniens, mais de l'ensemble du monde arabe. La guerre de juin, dit-il, a eu pour mérite de faire réapparaître l'entité palestinienne. Il exalte les actes de la résistance et annonce que son pays lui apporte une aide sans réserve. Il reconnaît le droit de la résistance à rejeter la résolution 242 que la République arabe unie a acceptée. Le lendemain, 2 février, dans une interview à Newsweek, il précise sa pensée. Une solution durable serait qu'Israël cesse d'être un pays fondé sur la religion et accepte une totale égalité entre juifs, musulmans et chrétiens. Il endosse, ainsi sans le dire explicitement, le programme d'un État démocratique en Palestine. C'est d'ailleurs parfaitement dans la continuité de ses positions antérieures à juin 1967, puisque Nasser n'invoquait que le droit au retour des réfugiés palestiniens en disant que si le droit au retour était appliqué, l'État d'Israël perdrait son caractère juif. Ce qui est bien évidemment le problème du droit au retour. Alors, l'ordre du jour officiel du Congrès est l'unification du mouvement national palestinien. En clair, c'est la prise de contrôle de l'OLP par le Fatah, ce qui passe par la désignation d'un nouvel exécutif avec Arafat à sa tête. On ne discute donc pas de programme politique et on s'en tient à la charte de l'année précédente. La déclaration politique du 4 février reste à l'idée force de la lutte armée et du rejet de tout solution politique, y compris le plan soviétique. Et le rejet de toute pseudo-entité palestinienne qui ne serait qu'un instrument au service de l'impérialisme et du sionisme. On reprend les arguments habituels. Le terme d'État est soigneusement évité. L'objectif du peuple palestinien, outre la libération de sa patrie, est l'édification d'une société démocratique libre en Palestine au bénéfice de tous les Palestiniens, musulmans, chrétiens et juifs. Donc, on voit toute l'ambiguïté de ce mois de janvier 69, début février 69, où pour la première fois, la revendication d'un État palestinien est énoncée, ce qui n'était pas énoncé dans les deux chartes de 64 et de 68. Mais au moment du Congrès lui-même, le terme État n'est pas formulé. On le contourne en parlant de société démocratique. Néanmoins, il faut bien comprendre que, en quelque sorte, la prise du contrôle de l'ELP par le Fatah s'accompagne de la définition d'un nouvel objectif qui est celui de l'État démocratique, différent et contraire à ce qui avait été énoncé dans la charte de 1968, qui parlait de l'expulsion de tous les Juifs arrivé en Palestine après 1917. Alors, donc, il y a une différence quand même considérable de programme. L'une des raisons de l'absence du FPLP à la réunion du Caire est sa division interne en une droite plutôt nationaliste et la gauche marxisante. Déjà en octobre 68, on l'a vu, Ahmad Jibril avait fait scission en créant le Front populaire commandement général, basé en Syrie et considéré en général comme un organe des services syriens. Après l'évasion de Georges Habash, qui était prisonnier en Syrie en décembre 68, on a tenté une réconciliation régénérale qui a échoué. Finalement, la gauche fait scission le 22 février 68 pour former le Front démocratique et populaire de libération de la Palestine, le FDLP, sous la direction de Naïef Awatmé, alors âgé de 32 ans. À noter que Georges Habash et Naïef Awatmé sont chrétiens. Le nombre de militants de la nouvelle organisation est réduit. Elle se veut être à l'avant-garde politique. Son discours se nourrit de toutes les formes de gauchisme de l'époque, castrisme, trotskisme, maoïsme, et son programme est particulièrement radical, appelant à la révolution dans tous les pays arabes et refusant toute tutelle extérieure sur la résistance palestinienne. En dépit de la scission, le FPLP s'inscrit aussi résolument à gauche, adoptant un discours résolument marxiste. Il dispose d'un appareil spécial, entre guillemets, chargé des opérations à l'extérieur du monde arabe et dirigé par l'activiste Wadi Haddad. Coupé de la Syrie, le FPLP obtient le soutien matériel de l'Irak bassiste. Néanmoins, Bagdad cherche aussi à établir son influence sur la résistance en créant en avril 69 une organisation dépendant du Baas irakien, le Front de libération arabe. La fragmentation de la résistance palestinienne s'explique par les différentes options idéologiques, les rivalités pour le pouvoir, et la reproduction à l'intérieur du champ palestinien des divisions internes du monde arabe. On se trouve ainsi devant la triste réalité qu'à chaque fois qu'un espace politique arabe prend un caractère pluraliste, il reproduit les clivages et les luttes d'influence, aussi bien arabes, moyen-orientaux qu'internationaux. Il est à noter que si toutes les composantes de la résistance se définissent comme anti-impérialistes, aucune n'a vraiment des relations de dépendance envers l'Union soviétique. Le Fatah, qui dispose maintenant d'un véritable trésor de guerre, grâce aux subventions des pays arabes et aux impôts levés sur la diaspora palestinienne du Golfe, a une vraie marge d'autonomie et ne cherche que la reconnaissance politique de l'Union soviétique. Les autres mouvements sont financés soit par la Syrie, soit par l'Irak. Toutes se tourne vers la Chine maoïste au moment où son prestige révolutionnaire est au plus haut, ce qui ne peut qu'agacer Moscou. Enfin, tous les mouvements, le Fatah comme les autres, rejettent la solution politique et en particulier s'en prennent explicitement au plan soviétique de décembre 1967. L'agacement de Moscou est donc absolument considérable et dans cette période, Moscou condamne l'aventurisme des mouvements palestiniens et semble-t-il menace même au début 1969 les pays arabes de couper les livraisons de matériel de guerre aux pays arabes en question, c'est-à-dire la Syrie et l'Égypte, si ces pays livrent une partie du matériel de guerre au mouvement de la résistance palestinienne, ce qui montre la dimension de l'agacement de Moscou et l'éloignement de Moscou par rapport à la résistance palestinienne. Seul, peut-être, l'appareil spécial du FPLP de Wadi Haddad aurait eu des relations organiques avec les services secrets soviétiques, c'est-à-dire avec le KGB. Wadi Haddad aurait ou pourrait être considéré, selon certaines sources, comme un agent du KGB, mais ça reste totalement controversé sur ce point-là, en particulier parce que Moscou sera, dans les années 69, 70, 71, sera particulièrement virulent contre Georges Habash et les opérations de terrorisme international menées par les FPLP, alors que Wadi Haddad est l'exécutant de ces opérations. Donc il y a au minimum un peu de schizophrénie entre la politique soviétique et le KGB, si réellement Wadi Haddad est un agent du KGB. La question reste ouverte. Et restera longtemps ouverte, puisqu'on a peu de chance d'avoir la totalité des archives du KGB à notre disposition pour la période actuelle. En tous les cas de cause, le FPLP continue sa campagne de terrorisme international en attaquant un avion d'El Al à l'aéroport de Zurich le 18 février 1969. Il reprend la rhétorique habituelle sur la nature militaire des avions israéliens. Et cette fois, Georges Habash théorise ce genre d'opération en affirmant qu'elles ont pour but de faire comprendre au monde que les Palestiniens ont été chassés de chez eux en dépit de la justice et du droit international et qu'ils sont prêts à tous les moyens pour en faire entendre leurs droits. Donc, c'est ce qu'on appelle le terrorisme à portée déclaratoire, en termes techniques. Le caractère spectaculaire de ces opérations se comprend aussi à l'intérieur des luttes de factions de l'extrême gauche palestinienne. La lutte contre l'impérialisme ne connaît pas de frontières, d'où la légitimité de ce type d'action. Au contraire, le FDLP de Naïef Awetmé condamne ces opérations en affirmant que le recours à l'action individuelle démobilise les masses qui doivent être les acteurs premiers de la lutte. Ça, c'est la rhétorique habituelle du gauchisme. Moins ils sont nombreux, plus ils font appel aux masses. C'est à peu près une définition. Arafat, qui a déjà à l'esprit la recherche d'une certaine forme de respectabilité internationale, condamne à son tour l'opération comme dommageable au gain de la résistance dans l'opinion publique mondiale. Le gouvernement israélien voit dans les déclarations de Nasser et dans le programme de l'OLP un plan d'extermination d'Israël, dans une première étape avec l'évacuation des territoires, puis dans un règlement comprenant les Palestiniens. Ce recours au discours alarmiste d'avant 67 sert à justifier les projets d'annexion sans qu'un consensus puisse être obtenu sur leur étendue. Il exprime aussi les inquiétudes nées de l'échec de la mission Jarring. Loin de renforcer le statu quo, cet échec pourrait conduire à un règlement imposé par les quatre grands. Les positions françaises et soviétiques sont bien connues. La Grande-Bretagne suivra les États-Unis. Il reste donc à connaître les orientations de la nouvelle administration américaine. Dans les territoires occupés, les manifestations d'élèves des écoles, en particulier de jeunes filles, devenues presque quotidiennes au début de 69, sont assimilées à des actions terroristes puisqu'elles sont inspirées par des organisations terroristes. Voilà la suite du raisonnement. Et elles sont donc traitées en fonction, ce qui fait qu'une quarantaine de jeunes filles sont hospitalisées après les charges de forces de l'ordre israéliennes. La politique de la carotte et du bâton se continue. Les mesures de détention administrative sans jugement se multiplient et au moindre soupçon, on détruit la maison d'une personne suspecte. Les détenus palestiniens libérés accusent les Israéliens de pratiquer couramment la torture. Il y a environ 1 000 000 de prisonniers en permanence. Le CICR, donc le Comité international de la Croix-Rouge, a le droit d'intervenir en ce qui concerne la Cisjordanie et Gaza, puisque ce sont des personnes protégées par les conventions de Genève, considère qu'il y a plus de mauvais traitements, style passage à tabac poussé, que de sévices systématiques. Les Israéliens refusent l'accès aux détenus de Jérusalem puisqu'il s'agit de ressortissants israéliens, ce qui est contraire, selon le CICR, à la 4e convention de Genève qui stipule que, je cite, « les personnes protégées qui se trouvent dans un territoire occupé ne seront privées en aucun droit ni en aucune manière du bénéfice de la présente convention, soit en vertu d'un changement quelconque intervenu du fait de l'occupation dans les institutions ou le gouvernement du territoire, soit en raison de l'annexion. » Les Israéliens répondent aussi en se référant à la même convention dont les stipulations ne s'appliquent pas à ceux qui font, je cite, « individuellement l'objet d'une suspicion légitime de se livrer à une action préjudiciable à la sécurité de l'État. » Mais là, on retombe sur l'opposition entre terrorisme et résistance, puisque la 3e convention relative aux prisonniers de guerre inclut dans sa définition des prisonniers les membres, je cite, « des mouvements de résistance organisés appartenant à une partie au conflit et agissant au dehors ou à l'intérieur de leur propre territoire. » Selon l'avis du grand juriste français René Cassin, par ailleurs, partisans affirmés de l'État d'Israël, si la 4e convention ne s'applique pas à ceux qui ont participé aux hostilités, ces derniers sont protégés par la convention sur les prisonniers de guerre. La justice militaire israélienne ne reconnaît pas ce statut pour les personnes ne portant pas l'uniforme, ne faisant pas partie d'un groupe militaire reconnu et dont les buts pour lesquels ils se battent sont bien différents de ceux admis par la guerre. On se demande lesquels, mais ça c'est un autre problème. Si la vallée du Jourdain et le canal de Suez sont relativement calmes dans cette période, on s'inquiète publiquement de l'accroissement du nombre de fédayines infiltrés au Liban Sud, en dépit des délégations du gouvernement libanais. Ils sont maintenant presque tous dans le secteur du Hermon, face au Golan occupé. Le dilemme israélien est que plus on insiste sur le danger représenté par les fédayines, plus on les rend populaires dans les masses arabes. Ça explique la retenue observée à la suite de l'attentat de Zurich, puis d'un attentat à Jérusalem le 21 février, qui fait 2 morts et 10 de blessés civils. On évoque des réactions d'autodéfense, entre guillemets, et le châtiment des coupables sans plus de précision. Le 24 février, un raid aérien est lancé contre 2 bases terroristes, entre guillemets, à proximité de Damas, sur la route Beyrouth-Damas. 2 avions syriens sont abattus quand ils sont arrivés pour intercepter. Le communiqué syrien évoque des pertes essentiellement civiles, 6 morts dont 2 enfants et 1 jeune fille. Les bilans suivants montrent le nombre de victimes à 15. Les avions israéliens se seraient trompés d'objectif et auraient frappé un poste douanier et des véhicules sur la route Beyrouth-Damas. La mort d'une crise par crise cardiaque de Lévi Eshkol le 26 février 69 paralyse temporairement le processus de décision israélien. Alors maintenant, nous allons voir les débuts de l'administration Nixon. Richard Nixon était surtout connu comme un guerrier de la guerre froide, Cold Warrior, et comme donc l'ancien vice-président d'Eisenhower. Il n'avait pas de sympathie marquée pour Israël et la communauté juive américaine, contrairement à Truman ou Johnson, dont l'entourage immédiat des deux était rempli de proches de l'État d'Israël. Dans son cercle privé, Nixon pouvait s'exprimer de façon très crue par rapport aux Juifs américains ou autres. Mais comme le révéleront plus tard les bandes magnétiques de la Maison-Blanche après l'affaire du Watergate, cette crudité du vocabulaire couvrait un spectre bien plus large de sujets. C'est-à-dire qu'en général, Nixon en privé avait un langage totalement ordurier. Ce qui est possible pour d'autres hommes politiques, mais lui, il avait le malheur d'avoir laissé les bordes. La véritable passion du nouveau président des États-Unis est la politique étrangère. Il est bien décidé à en avoir le contrôle. Il se méfie profondément du département d'État, qu'il soupçonne de ne pas vouloir appliquer les directives présidentielles. Il choisit comme secrétaire d'État son ami de 30 ans, si j'ose dire, à la française, William Rogers, un juriste qui n'a aucune pratique des relations internationales. Comme il veut que la politique soit menée par la Maison-Blanche, il s'appuie sur le Conseil de sécurité nationale, confié à la forte personnalité d'Henry Kissinger, un professeur d'université assoiffé de pouvoir. Ça existe. Nixon et Kissinger sont des solitaires, ayant un penchant certain pour la diplomatie secrète et hostile à la délibération publique. Donc voilà une petite équipe avec du Conseil de sécurité nationale. La priorité absolue est la guerre du Vietnam, qui implique à la fois les relations avec l'Union soviétique et une éventuelle ouverture vers la Chine. Dès le début, Kissinger entame une guerre privée contre Rogers, qu'il cherche à tenir éloigné de la prise de décision. Il fait ainsi comprendre à l'ambassadeur soviétique à Washington, Debrinin, que c'est lui l'interlocuteur et non le secrétaire d'État. En ce qui concerne le Moyen-Orient, l'approche de Nixon est essentiellement d'ordre géopolitique. Il cherche à contrer l'expansion de l'Union soviétique dans cette région du monde à la suite de la guerre de juin 67. Selon la théorie du lien, linkage, il est prêt à associer la question du Moyen-Orient à celle du Vietnam et à celle du contrôle des armements. Il n'a aucune sympathie pour la communauté juive américaine, qu'il juge être majoritairement favorable au Parti démocrate et lui être hostile depuis le début de sa carrière politique. Il identifie les juifs américains aux libéraux de la côte Est, ses ennemis mortels. De surcroît, il considère que le lobby pro-israélien trahit les intérêts fondamentaux de la politique étrangère américaine, mais qu'il doit en tenir compte en raison de son influence directe sur les médias et sur le Congrès. Certains historiens américains sont allés jusqu'à dire que Nixon partageait les préjugés antisémites de la classe moyenne américaine dont il est issu. Il faut aussi voir le fruit de son expérience politique au temps de la présidence d'Eisenhower, en particulier lors de l'épreuve de force du début de l'année 1957. Et d'autre part, il faut se rappeler que Foster Dulles tenait le même discours durant les longues années de l'administration Eisenhower. C'est donc tout simplement l'héritage de l'administration Eisenhower et non pas un préjugé particulier. S'il est des collaborateurs directs d'origine juive, comme Henry Kissinger ou William Safire, Nixon se méfie de leur influence supposée sur la gestion du dossier moyen-oriental. Plus que du vote juif qu'il considère comme acquis à ses adversaires politiques, il s'inquiète du poids du lobby pro-israélien au Congrès, qui s'est déjà manifesté en février 69 pour condamner le principe des conversations à quatre. Pour cette raison, il a décidé au début de sa présidence de confier la gestion du dossier à Rogers. Ainsi, un échec tout à fait probable retombera sur le département d'État et non sur la Maison-Blanche. Kissinger ne peut accepter cette situation et est prêt à mener une impitoyable guerre bureaucratique pour éliminer le secrétaire d'État. Chaque fois qu'il y aura une crise majeure au Moyen-Orient, Inévitablement, le dossier remontera à la Maison-Blanche et donc au Conseil de sécurité nationale, donc à Kissinger. De surcroît, le conseiller du président, en ramenant les dossiers de la région à la confrontation Est-Ouest, réimpose automatiquement sa place. Dans sa perspective de théoricien, la guerre froide au Moyen-Orient comme ailleurs est un jeu à somme nulle, où tout progrès de l'une des parties ne peut se faire qu'au détriment de l'autre. D'où la méfiance à avoir face à chaque proposition de Moscou. Toute solution imposée serait interprétée comme un condominium américano-soviétique et risquerait de faire du tort au système d'alliance partout dans le monde, sans parler de la redéfinition des relations avec Israël. Mais par ailleurs, il faut éviter une situation où les Soviétiques parleraient au nom des Arabes et les Américains au nom des Israéliens. Cela consacrerait la place des Soviétiques dans cette partie du monde. Le dialogue avec l'Union soviétique ne peut avoir d'intérêt que dans une perspective de limitation des conflits locaux, c'est-à-dire une réduction des livraisons d'armement. La priorité absolue est d'éviter une confrontation israélo-arabe où les deux superpuissances seraient directement impliquées. La précarité de l'influence soviétique dans le monde arabe ne poussera pas Moscou à exercer de véritables pressions sur ses alliés. Après tout, la démarche diplomatique engagée ne traduit-elle pas leurs préoccupations devant le développement d'un terrorisme que même leurs alliés ne contrôlent pas? En ce qui concerne le règlement lui-même, Kissinger estime que les Américains n'ont pas à tracer les futures frontières de l'État d'Israël, ce qui laisse bien entendre que pour lui, des annexions conséquentes sont tout à fait possibles. Il a un puissant secours dans la décision de Nixon de traiter directement avec les Soviétiques, sans passer par le Département d'État, c'est-à-dire par un canal composé de Kissinger et de Dobrynin. Au passage, je signale qu'une initiative américano-soviétique récente vient à consister à publier la totalité des rencontres Kissinger-Dobrynin, à la fois à partir du procès-verbal américain et du procès-verbal soviétique côte à côte. Je n'ai pas encore mis la main sur le livre, puisqu'il ne sera disponible qu'au début du mois de janvier. Mais c'est intéressant de voir ces initiatives conjointes de publication de documents diplomatiques. Face au plan soviétique, Nixon et Kissinger sont décidés à retarder toute prise de décision à l'issue de la tournée européenne du président prévue pour la fin février, début mars 1969. On se montre donc favorable à la tenue de discussions préliminaires sur les conversations à quatre. Elles prendront un caractère bilatéral avec chacune des trois autres parties afin de pouvoir dégager des positions communes. À Washington, on affirme que l'on veut préserver l'indépendance de la mission Jarring, qui émane du Conseil de sécurité et non des quatre. Mais l'intéressé, qui considère que l'immobilisme israélien constitue le principal obstacle, n'envisage de se rendre dans la région qu'après avoir reçu un encouragement des quatre. Finalement, il se décide à partir quand même, puisqu'il s'était engagé à le faire, et Ban y voit l'échec des conversations à quatre. Alors, dans les conversations européennes, le moment essentiel, c'est la rencontre franco-américaine du 28 février, 1er mars 1969, où on a un véritable feu d'artifice gaulien qui est pratiquement un champ du cygne de la politique gaulienne. Les entretiens commencent d'abord au niveau ministériel, puis ensuite par un long tête-à-tête entre Nixon et De Gaulle. Les relations sont excellentes entre les deux hommes. Ce sont probablement les meilleures que De Gaulle ait jamais entretenues avec un président américain. De Gaulle avait une admiration réelle pour Richard Nixon et avait reçu Nixon plusieurs fois lors de la traversée du désert de Nixon. Et Nixon lui était particulièrement reconnaissant de ce geste. Ils font donc le tour de l'actualité mondiale et De Gaulle exprime pour la dernière fois pratiquement ses vues sur le Moyen-Orient. Il ne faut pas faire semblant de chercher la paix, ce qui signifierait la poursuite de la mission Jarring. Les quatre doivent se mettre d'accord sur l'application de la résolution 242. Alors, je vais faire une série de belles citations gaulliennes totalement inédites. puisque c'est des documents récemment déclassifiés, selon le terme. Je cite, « C'est-à-dire que les troupes israéliennes se retirent, que la sécurité des frontières d'Israël soit garantie, que la liberté de navigation dans le golfe d'Aqaba et dans le canal de Suez soit assurée, y compris pour Israël, et que les réfugiés puissent retourner chez eux s'ils le désirent. Un arrangement pourra intervenir ensuite sur le tracé des frontières, éventuellement amélioré. Si les puissances en sont d'accord, cela pourra se faire rapidement. Sinon, ça ne se fera jamais. Et alors, la situation au Moyen-Orient deviendra de plus en plus mauvaise. » Et ensuite, De Gaulle part dans une prédiction qui impressionne considérablement ses interlocuteurs américains, et je dois dire aussi ses lecteurs postérieurs. Je cite, « En effet, Israël devient de plus en plus impérialiste. Dayan risque de devenir le maître. Il veut aller vers le Nil, vers l'Euphrate, aller à Beyrouth, à Damas. Et il le peut car il en a les moyens. Les Arabes sont dispersés et moins bien armés. Seulement, il se trouvera parmi des populations arabes en Égypte, en Irak, en Syrie. Les accidents, les assassinats, les camps de concentration vont se multiplier. Les oléoducs, les puits de pétrole vont sauter. Les gouvernements arabes s'effondreront au Caire, à Amman, à Beyrouth, et leur place sera prise par des enragés qui seront conduits on ne sait par qui, en tout cas pas par vous, ni même par les Soviétiques. Nixon accepte le cadre de la concertation à quatre, mais veut la doubler de contacts bilatéraux américano-soviétiques et cherche à obtenir l'approbation de De Gaulle. Ce dernier trouve cela normal, puisque de son côté, la France en tiendra aussi une concertation bilatérale avec les Soviétiques. Mais De Gaulle considère qu'une proposition américano-soviétique aura moins d'impact qu'une décision à quatre, ne serait-ce que parce qu'une décision américano-soviétique paraîtra comme un condominium, ce qui n'est pas le cas d'une décision à quatre. Nixon reconnaît qu'il ne faut pas chercher un Yalta du Moyen-Orient et que l'Union soviétique ne doit pas apparaître comme la seule amie des Arabes, sous-entendu le rôle de la France, que la France pourrait occuper. Nixon affirme qu'il ne sera pas influencé par des considérations de politique intérieure. Je cite, « À propos d'Israël, je voudrais vous éclairer sur deux aspects. D'abord, il y en a qui pensent qu'aucun président des États-Unis ne peut prendre une décision quelconque au sujet d'Israël sans tenir compte du vote juif. Ce n'est pas mon cas. De Gaulle, je le sais. Nixon, la décision que je prendrai au sujet du Moyen-Orient ainsi que celle que je serai amené à prendre sur l'armement stratégique ne seront pas fondées sur des considérations de politique intérieure. » Mais ensuite, on continue en affirmant que le règlement ne doit pas paraître être imposé à Israël, d'où l'importance des garanties de sécurité à accorder. De Gaulle est d'accord, c'est une question de forme, je cite. D'ailleurs, imposer n'est qu'un mot. En fait, il s'agit de bien de cela. Autrement, Israël n'acceptera jamais de revenir sur ses lignes de départ. Il comprendra qu'il vaut mieux pour lui d'accepter la solution que de subir éventuellement des pressions puis des sanctions du Conseil de sécurité. Nixon ensuite exprime son inquiétude devant l'action des forces radicales dans le monde arabe. Il faut que l'Occident soutienne, entre guillemets, les forces stables du monde arabe et conservatrices, et le général de Gaulle l'approuve. Les entretiens des deux jours suivants sont consacrés aux questions européennes et de sécurité, ainsi qu'à la guerre du Vietnam. Nixon laisse entendre qu'à long terme, il faudra bien avoir une politique d'ouverture vers la Chine populaire. Annonce des grandes décisions de 1972. À son retour aux États-Unis, le 5 mars 1969, Nixon déclare que si les contacts bilatéraux donnent des résultats satisfaisants, on pourra passer aux conversations à quatre. Le département d'État pousse dans ce sens, tandis que Kissinger y est hostile, à la fois pour des raisons de fond. Selon lui, les oppositions entre les partis sont trop fortes et la priorité doit être donnée aux questions du Vietnam et du contrôle des armements, et que l'opinion publique américaine est trop divisée sur la question du Vietnam. Un règlement imposé au Moyen-Orient accroîtrait encore du trouble. Et le reste pour des raisons bureaucratiques. Il n'a pas encore pris l'ascendance sur Rogers et ne peut lui permettre d'obtenir un succès si éclatant. Si on accepte le principe de discussion bilatérale, il reste à savoir qui sera l'interlocuteur de Dobrynin, le département d'État ou Kissinger. Joseph Sisko, qu'on a déjà vu, l'expert du Moyen-Orient au département d'État, est ainsi contraint de mener une double diplomatie. La première, peut-être la plus facile, entre les Arabes et les Israéliens. La seconde, plus ardue, entre Rogers et Kissinger. C'est Kissinger lui-même qui écrit ça, hein, dans ses mémoires. Il transmet ainsi toutes les informations sur le Moyen-Orient arrivant au département d'État. Il les transmet donc au Conseil de sécurité nationale, alors que Kissinger est loin d'en faire de même. Il obtient ainsi la charge de mener du côté américain les conversations bilatérales avec Dobrynin. Tout le monde s'accorde sur le diagnostic, l'influence croissante de l'Union soviétique au Moyen-Orient, et diffère sur le traitement. Pour le département d'État, un règlement politique où l'Union soviétique aurait son rôle à jouer conduirait inévitablement à la diminution de sa place au Moyen-Orient, puisque tout simplement les Arabes auraient moins besoin de l'Union soviétique. Pour Kissinger, un tel règlement profiterait essentiellement aux clients de l'Union soviétique qui verraient ainsi sa place régionale consacrée. Il faut d'abord réduire l'influence soviétique pour que les progrès réalisés apparaissent comme une récompense de l'éloignement pris envers Moscou. En quelque sorte, dans la perspective de Kissinger, Israël est le bâton et les États-Unis sont la carotte. On poussera les États arabes à quitter l'Union soviétique, l'influence soviétique, sous les coups des Israéliens, ça c'est le bâton, et la carotte sera le règlement politique, à ce moment-là offert par les États-Unis. La question du temps est essentielle. Pour les tenants de la première thèse, faute de solution politique, le conflit va s'aggraver et porter tort aux intérêts vitaux des États-Unis. Pour la seconde école, il faut jouer sur la durée afin de faire comprendre aux Arabes qu'ils n'obtiendront rien par la force et par l'aide soviétique. C'est seulement à ce moment-là qu'il faut agir. La question territoriale est le non-dit de la controverse. Une solution imposée par le retour aux lignes du 4 juin 67 ou leur équivalent. Kissinger, dont plusieurs membres de sa famille sont morts dans la Shoah, admet la légitimité des revendications territoriales israéliennes, aussi bien pour des raisons sécuritaires que par acceptation des principes du sionisme. Dans ses mémoires, il laisse clairement entendre que les résolutions de l'ONU ne sont pour lui qu'un brouillard de mots. En tant que théoricien d'une approche réaliste des relations internationales, il accorde peu de poids à des principes comme le respect de l'intégrité territoriale ou l'intangibilité des frontières, ainsi que le respect des traités. Ce qui compte est le rapport des forces et leur éventuelle neutralisation réciproque. Ça, c'est toute la doctrine kissingérienne des relations internationales. Dans l'immédiat, Kissinger voudrait bien passer par une option jordanienne avec un accord partiel sans se rendre compte que l'administration Johnson est allée jusqu'au bout dans cette voie infructueuse et que c'est justement la Cisjordanie et Jérusalem qui constituent le dossier le plus difficile à traiter. Comme rien ne peut se faire dans ce domaine, il reste à temporiser en faisant semblant de donner de l'importance aux concertations en cours, les bilatérales comme les quadrilatérales. L'idée est de faire comprendre aux soviétiques par le biais des contacts que des progrès au Moyen-Orient sont conditionnés par des avancées dans le dossier vietnamien. Et là, Kissinger fait une erreur très grave. Car il ne se rend absolument pas compte que la capacité de Moscou d'influencer le Vietnam du Nord est à peu près nulle. Il ne se rend pas compte de la symétrie des situations entre les États-Unis et Israël et entre Moscou et le Vietnam du Nord, c'est-à-dire que les superpuissances n'ont pas de vrais moyens d'influencer les politiques de ceux qui apparaissent pourtant comme leurs alliés et leurs dépendants en armement. La question du temps est donc essentielle. Pour le département d'État, il est urgent d'agir. Pour Kissinger, il faut jouer sur la durée pour amener les Arabes selon des conditions acceptables pour Occident. a amené les Arabes à prendre des conditions acceptables pour l'Occident. Mais reste à savoir qui est le maître du calendrier. Et ça, suspense pour la semaine prochaine.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.